fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Wir werden über die aktuelle Krise Politik in Togo, auch in Guinea, sprechen. Ich bin Sylvain Moos am Mikrofon. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Bonsoir Lomé, bonsoir Conakry, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Cotonou, Kinshasa, Douala, amis panafricanistes et amis du continent noir, bienvenue dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Eh bien, depuis Lomé au Togo, mille pensées à nos auditeurs de Légende FM ainsi qu'à ceux qui nous écoutent sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, depuis les événements de 2005, suite au décès tragique de Feu Eyadema, la tension n'a cessé d'être explosive au Togo. Les partisans de l'opposition battent le pavé en quête de plus de liberté, de démocratie et d'état de droit. Après les inculpations de trois avocats du collectif Sauvons le Togo, c'est le tour du leader de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, et du MRC, Mouvement des Républicains Centristes, notamment Jean-Pierre Fabre et Abbas Kabwa, qui viennent également d'être inculpés ce mardi par le juge d'instruction. Eh bien, que se cache-t-il derrière ces inculpations de ces leaders de l'opposition à l'approche des élections législatives au Togo? C'est la grande interrogation que se posent beaucoup de Togolais. Sous l'œil vigilant de Michel Pouliot, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjodi, Lucien Mukanli, Fabi Kwasi constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos. Encore une fois, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Dans quelques instants, notre éditorial. Mais bien avant ça, Romain Koudjodi est en ligne en Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Merci de ta collaboration depuis l'Allemagne en Beaune. Nous ne saurions commencer notre éditorial sans compatir avec nos confrères journalistes qui ont été violemment réprimés dans le sang jeudi dernier à Lomé au Togo lors de la manifestation contre la loi organique de la HAC, loi renforçant les pouvoirs de sanction de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'encontre des médias au Togo. Nous sommes de cœur avec vous et vous soutenons, car vous et nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous les journalistes blessés et meurtris dans leur cœur et âme. Nos pensées vont également au doyen Amavi Egbeboa, alias Young Love, sauvagement blessé à la mâchoire, qui va suivre une opération avoisinant un montant de 1000 euros. Cette lutte, nous la mènerons ensemble pour une véritable liberté d'expression au Togo. Nous osons crier encore une fois, comme ce grand journaliste français qui affirmait, je cite, « Fais-moi une bonne politique et je te fais une bonne presse ». Depuis plusieurs mois, le collectif Sauvons le Togo défie le pouvoir en place en mobilisant la population de Lomé dans des manifestations régulièrement réprimées par les forces de l'ordre, sans réussir à entamer le courage et l'engagement du collectif décidé à forcer la main aux autorités en vue de la mise en œuvre des réformes institutionnelles dans ce pays où tout est mis en œuvre pour éviter l'alternance au pouvoir. Le 10 janvier dernier, un incendie visiblement criminel a consumé le grand marché de la ville de Kara, au nord du pays, bastion du pouvoir en place. 10 jours plus tard, ce fut le tour du grand marché de Lomé, faisant des centaines de milliards de dégâts matériels, pour la plupart au passif des femmes commerçantes réputées actives dans ce secteur, avant que les deux experts français dépêchés au Togo sur la demande du gouvernement pour enquêter sur les causes de ces incendies ne soumettent les conclusions de leurs recherches, le procureur de la République Blaise Essolizam Poyodi précipite dans sa propre enquête et désigne 23 personnes, tous membres ou proches de l'opposition, qui seront interpellés par la gendarmerie nationale et déférés à la prison civile de Lomé. Rappelez-vous, toujours dans cette affaire, trois avocats du collectif Sauvons le Togo ont été inculpés par le juge d'instruction. Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, et Abbas Kaboua, eux aussi, membres du collectif Sauvons le Togo, ont été également inculpés mardi dernier dans le cadre de l'enquête sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Les deux leaders politiques ont passé toute la journée du mardi 12 mars à la gendarmerie. Que cachent réellement ces inculpations des responsables politiques membres du CST? C'est la grande interrogation qui taraude les idées de tout citoyen togolais. À cette question, certains Togolais avisés pensent que ces inculpations visent à décapiter l'opposition togolaise à l'approche des prochaines élections législatives. C'est ce qu'avance d'ailleurs l'ensemble de l'opposition togolaise. Autre préoccupation, pourquoi l'enquête des experts français sur les incendies des marchés annoncée pour fin février tarde-t-elle à être rendue publique? Bien que l'enquête, activée par les deux experts français, n'ait encore jusqu'ici livré ses conclusions, la sortie musclée du Parti socialiste français au pouvoir en France et d'autres instances internationales contre l'arrestation des membres de l'opposition togolaise laisse deviner l'arbitraire qui domine l'enquête du procureur qui, sans doute, laisse courir les vrais auteurs de ces incendies au relent plutôt politique. Une inculpation qui prouve à suffisance l'acharnement des autorités togolaises contre les opposants et met à nu les vraies raisons de ces incendies criminels. Au-delà de ces agissements des autorités togolaises, il faut souligner un fait très important dans la continuité de la lutte pour l'alternance dans le pays. Pour n'avoir pas toujours voulu adopter une forme de lutte à même de faire fléchir le régime politique établi à Lomé, l'opposition politique continue d'en payer les frais. Quand ses membres ne sont pas assassinés, tout bonnement, ils sont mis aux arrêts dans des conditions arbitraires. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, dit-on. C'est en quelque sorte ce qu'on peut retenir de la saga des convocations et auditions des responsables de l'opposition, en l'occurrence ceux du collectif Sauvons le Togo. Des manœuvres concoctées depuis le sommet de l'État pour faire taire et décapiter le mouvement de contestation du collectif Sauvons le Togo. Après donc les avocats Gilles Benoît Afangbedi, Raphaël Pandé Adjaré, Zeus Messan Atta Jabon, c'est le tour de Frédéric Abbas Kaboua et de Jean-Pierre Favre de subir l'arrogance de la fougue du tonitruant capitaine Akakbo et de son équipe de bouffons de gendarmes. Le cycle meurtrier du répression contre l'opposition au Togo aura-t-il raison d'une contestation qui se réveille à nouveau contre la famille Nyasimbe au pouvoir depuis 1963? Le régime se donne en tout cas les moyens d'y parvenir. Le bilan sur les violations des droits humains s'alourdit chaque jour davantage. Certes, les Togolais sont sans ignorer que ce pouvoir est suffisamment armé et entretient des milices qui n'attendent que le moindre sursaut populaire pour massacrer les populations. C'est la preuve que nous sommes revenus au temps où le pouvoir était à bout de fusil. On les tue, on les massacre, on les embastille, mais le peuple a montré et continue de montrer sa détermination à travers des manifestations pacifiques. Le régime qui malmène son peuple parle de manipulation. Eh bien, il est vrai qu'à cause de la pauvreté, beaucoup se laissent manipuler. Mais qui manipule qui? La réponse est sans doute simple à savoir. Il est temps que le peuple prend sa destinée en main et se lève comme un seul homme pour dire non à la manipulation des politiques. Surtout, je dis bien, ceux qui détiennent le pouvoir et qui gèrent le pays à leur guise. Aucune force, aucune armée ne saurait vaincre un peuple déterminé. Togolais vient, bâtissons la cité. Merci de votre fidélité dans Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal K.
Autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple.
Ceux qui sont au pouvoir s'accrochent et on ne sait pourquoi, chanté par Jad Fosis dans son album Au nom du peuple. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Dans quelques instants, nous allons prendre en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kouassi pour l'actualité politique au Togo.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amous, bonsoir. Bonsoir à tous.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Le recensement pour les prochaines échéances électorales au Togo a commencé cette semaine. Le gouvernement et la présidente de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, se disent satisfaits de cette opération. En revanche, des voix s'élèvent déjà dans le milieu de l'opposition qui se disent déjà inquiets du dispositif mis en place pour le recensement. Fabi Kouassi.
En effet, Sylvain, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le début du recensement dans un flou et en désordre indescriptible malgré les appels des acteurs de l'opposition à une recomposition de cette CENI et une meilleure organisation de tout le processus. C'est donc le top départ de cette opération d'enregistrement des électeurs ce 15 mars dans la région septentrionale. Mais en réalité, le recensement tant annoncé avec tambour et cymbales a du mal à débuter. Les opérateurs de saisie dénoncent un cafouillage indescriptible et ceux d'Atakamé ont dû manifester 2 jours durant leur mécontentement quant à leurs conditions de travail, avec un accent particulier sur les primes que la CENI a du mal à payer conformément aux engagements pris vis-à-vis de ces opérateurs. En principe, le recensement devrait s'étendre sur 1 mois, mais la CENI de Mme Agiga du parti au pouvoir n'a prévu qu'une dizaine de jours dans la première zone. Avec les cafouillages du début, on peut affirmer sans risque de se tromper que le régime en place n'est pas du tout disposé à organiser des élections répondant aux standards internationaux, fussent-elles législatives ou locales. Et le fait que la présidente de la CENI et le gouvernement se satisfassent du début des inscriptions des électeurs reste une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du pouvoir. Ce flou kafkaïen orchestré minutieusement pour se tailler une assemblée nationale sur mesure se déroule au nez et à la barbe des fameuses représentations diplomatiques qui ont pris l'habitude de soutenir la dictature cinquantenaire de père en fils en avalisant les continuels hold-up électoraux se fendant des déclarations alambiquées aux formules connues. Les irrégularités constatées ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin et rebelote pour la prochaine mascarade électorale. Ainsi va la communauté internationale installée au Togo. C'est dans une ambiance plutôt de crise aiguë, avec des pôles de tension de part et d'autre, travailleurs du public mécontents, journalistes à abattre pour avoir refusé de regarder dans la direction du prince, vendeurs d'essence frelatée en colère, dossiers ténébreux des incendies avec des inculpés imaginaires, des détenus politiques. C'est donc dans cette ambiance-là que le pouvoir de M. Fornia Simbé fait feu de tout bois pour aller coûte que coûte aux élections et que l'opposition demande, malgré qu'elle dénonce la conduite unilatérale du processus, à ses militants de se faire inscrire sur les listes électorales, ce qui ne fait que présager des lendemains électoraux tumultueux comme le Togo en a l'habitude.
Fabi Kwasi, merci beaucoup pour ces informations sur le recensement des électorales au Togo pour les prochaines échéance électorale au Togo qui a quand même mal démarré. Nous parlons également du dossier de Kwacha Nyasimbe qui est toujours d'actualité. Lui qui avait écopé 20 ans de réclusion ferme dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Alors Kwacha Nyasimbe attend toujours le verdict de la Cour d'appel de la CEDEAO, Fabi.
Oui, le Patagate refait surface au nom de son demi-frère de président qu'il a embastillé pour une affaire de coup d'État dont il est difficile de prouver l'existence. Kwacha Nyasimbe va sans doute pourrir en prison. La Cour de justice de la CEDEAO, qui a été saisie sur le volet torture dans le dossier ténébreux de coup d'État, vient de recevoir la visite d'un avocat du Sérail togolais. De sources concordantes, cet avocat très connu dans les milieux du régime togolais pour son militantisme si discret et sa hargne à défendre les dossiers pourris de la République a débarqué cette semaine même à Abuja, au Nigeria, avec la mallette Afrique de la République, objectif corrompre les juges de la Cour sous-régionale à rendre un verdict clair-obscur. Fornia Simbé voudrait éviter que la Cour n'ordonne en aucune manière la libération de son frère ou son demi-frère et ses compagnons d'infortune qui, au regard de la Convention contre la torture, qui reste un crime imprescriptible, devrait recouvrer la liberté immédiate dans un état de droit. Malheureusement et visiblement, Sylvain, cette opération corruption a marché. Le pouvoir togolais ayant la capacité de corrompre les grands de ce monde, ce ne sont pas les juges de la Cour de la CEDEAO qui auraient résisté à la manne vertigineuse du prince du Togo. De plus, cette Cour est présidée par la Togolaise Awanana, plutôt proche du régime togolais. On se souvient également, dans le cadre du dossier des députés ANC révoqués, la même Cour a pu écrire blanc sur noir que les élus du peuple doivent réintégrer le Parlement. Elle a juste demandé que les députés soient rétablis dans leurs droits à la suite de nombreuses visites de sept magistrates à Lomé. Awanana, qui a eu à présider, on s'en souvient comme si c'était hier, la CENI, la présidentielle de 2003, elle a préféré prendre la poudre d'escampette au lieu de proclamer le vrai vainqueur des urnes. Aux dernières nouvelles, et comme par magie, la Cour vient de repousser à une date ultérieure son verdict préalablement prévu au 21 mars. Sans d'autres précisions, la Cour de la CEDEAO serait-elle aussi sous la coupe réglée du prince du Togo, comme la justice togolaise qui s'assoit sur les règles du droit et obéit plutôt à Fornia Simbé dans sa folie de régler des comptes à des citoyens togolais? Si la Cour de justice de la CEDEAO devient elle aussi une propriété des chefs d'État, surtout les dictateurs mal élus, ce serait bien dommage pour le droit et les justiciables. Les détenus dans ce dossier de coup d'État sont, selon nos informations, abasourdis et ne comprennent pas le revirement à 180 degrés de cette Cour à l'heure où les avocats de Kwacha Nyasimbe s'apprêtaient à rejoindre Abuja la semaine prochaine.
Fabi Kwasi, merci beaucoup pour ce briefing sur l'actualité politique au Togo. Rendez-vous donc samedi prochain. Merci et bonne soirée depuis Lomé. RA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Bien, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, amis panafricanistes. Eh bien, tous les journalistes togolais sont très furieux, hein, suite à la répression sanglante jeudi dernier lors d'une manifestation des journalistes contre la loi liberticide. Eh bien, Romain Koudjodi, notre collaborateur de Beaune, est également en ligne, en direct. Nous l'avons entendu en début de cette émission. Romain a un coup de gueule. Romain, rebonsoir.
Bonsoir Sylvain, je dédie ce coup de gueule à toutes les victimes gazées par les militaires et les forces de l'ordre à la plage. Le Togo est malade de ses militaires. Il suffit d'ajouter « militaire » à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice. La musique militaire n'est pas la musique. Citation de Georges Clemenceau. Sur les réseaux sociaux circule une vidéo déshonorante et humiliante pour la patrie, le Togo. Il s'agit d'une vidéo démontrant les voies de fait suivies par un confrère en la personne de Justin Anani. Ce dernier était devant les locaux de la gendarmerie en train de faire son travail, la recherche de la vérité. Et quand il fut pris à partie par un élément en treillis de la SRI qui lui donna injection de quitter les lieux et de se rendre plutôt en Syrie pour couvrir les événements, car c'est là-bas qu'ils sont recherchés. De deux choses l'une, soit le militaire est ignorant de la mission du journaliste qui consiste à aller chercher l'information partout où besoin sera, pour la porter au public où ce dernier est tout simplement inculte. Alors, dans ce cas, les amis, les Ivoiriens, le dire si bien. Posons-nous cette vulgaire question. On est où là? Mais après tout, la presse est un quatrième pouvoir. Un peu de respect à cet égard. Avec politesse et fermeté, il y a lieu de répondre à cet homme en treillis. La place du journaliste, c'est là où il y a événement. Et quand la SRI crée l'événement, en interpellant les hommes politiques, eh bien, la place du journaliste doit être là. Même dans l'enceinte de la SRI, si besoin en est. Mais à l'heure actuelle où le Mali est confronté à un combat de front contre les islamistes, eh bien, la place de cet homme en treillis est plutôt au Mali pour combattre les islamistes et amener la paix en Afrique. Ces islamistes coupeurs de bras que de pouvoir s'en prendre à un journaliste qui ne fait que son métier. Il est d'autant plus malheureux qu'à l'heure actuelle où le pays traverse une crise profonde, certains qui tirent leur pitance de l'usufruit du citoyen ne puisse se permettre ces genres de maladresses qui ne font qu'avilir le corps habillé. Heureusement qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Cela s'appelle tout simplement le manque de civisme et de civilité envers le citoyen.
Romain Koudjodi, merci pour son coup de gueule. TogoCity.com, IssyLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, effectivement, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Toujours à Lomé, au Togo, un confrère journaliste est également en ligne en direct depuis Lomé. Une réaction sur les répressions sanglantes jeudi dernier lors d'une manifestation des journalistes contre la loi liberticide. Nous accueillons tout de suite Sylvie Combé en direct depuis Lomé. Sylvie Combé, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé. Vous êtes journaliste freelance, président du réseau africain des journalistes sur la sécurité humaine et la paix, RAJOSEP. Votre groupement a participé jeudi dernier à la manifestation des hommes de médias et bien sûr contre la loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Togo. Alors, manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre. On a même noté plusieurs blessés. Alors, Sylvio Kombé, quelle est votre réaction?
Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous accordez, à l'OMP pour nous exprimer sur la situation que vivent les journalistes actuellement face à la loi liberticide de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il faut dire que le jeudi dernier, en fait, nous, l'organisation de la presse au Togo, sommes sept à nous regrouper au sein d'une synchronie pour dénoncer un peu cette loi liberticide qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 19 février dernier. Nous avons appelé à une série de manifestations. D'abord, le mardi, c'était une journée pour appeler les Togolais à s'unir à notre mouvement où nous avons observé une journée sans presse. Il n'y avait que des radios qui ne diffusaient que de la musique, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas d'émissions, de même que pour les télévisions. Il n'y a pas de journaux dans les kiosques, sauf si il y a eu deux journaux qui ont bravé le mot d'ordre et d'autres journaux également pour saboter le mot d'ordre parce que on aurait écouté, on aurait entendu qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ont paru mardi alors qu'ils ne paraissent que certains jeudi, d'autres vendredi. Également, contrairement à notre mot d'ordre, il y a d'autres radios, deux radios qui ont également diffusé, qui ont également travaillé comme si de rien n'était, un peu comme de télévision. Le lendemain, nous avons appelé les Togolais qui sont toujours pris de la liberté d'expression et de presse de s'unir à notre mouvement, de s'habiller en rouge, de se vêtir de rose ou de porter des signes distinctifs de rouge. Ça a été fait, ça a été largement suivi. Mais il faut également préciser que le mot d'ordre de journée sans presse a été suivi à plus de 95% selon nos statistiques. Le jeudi, nous avons appelé à un sit-in devant le palais de la présidence de Lomé et force a été de constater que cette manifestation a été violemment réprimée. D'abord, nous avons envoyé une correspondance au président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, le contre-amiral Fogandignon, pour l'informer. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un régime d'information. Nous l'avons informé de notre intention de faire un sit-in sur le boulevard du Mono en face du palais de la présidence. Il a accusé réception, il nous a envoyé un courrier retour pour nous informer que il n'autorise pas cette manifestation sur le boulevard, comme quoi c'est une route internationale et donc on ne peut pas faire notre sit-in là. On a tempéré, on a dit mais écoutez, donc dans ce cas, on se retrouve au niveau de la plage pour faire notre sit-in. Alors ce qu'on le lui a envoyé comme réponse et après il nous renvoie une autre réponse pour nous dire que même à la plage il n'accepte pas notre sit-in. C'est déplorable.
Déplorable, Sylvio Kombé, est-ce que c'est ce qui expliquerait la répression violente sur nos confrères journalistes?
Oui, mais ça ne devrait rien expliquer parce qu'on n'a pas besoin d'une autorisation que ce soit. Nous sommes dans un régime d'information. Et il estime que normalement on ne peut pas faire un sit-in là parce que il n'y a aucune garantie de sécurité. C'est déplorable. Les journalistes, on n'a pas d'armes. Nous ne voyons pas en quelle mesure notre sit-in devant la présidence et en plus ce n'est plus sur le boulevard, mais à la place constituerait une menace à la sécurité. D'ailleurs que À ce même endroit, il y a déjà eu beaucoup d'activités, beaucoup de sit-ins, beaucoup de manifestations publiques qui ont déjà eu lieu à ce même endroit. Alors nous, on a dit, écoutez, nous sommes des journalistes, on a également le droit de manifester où on veut, on n'a pas besoin d'autorisation, on a commencé par faire notre sit-in pacifiquement, en scandant bien entendu des slogans, en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire le ministre de la Communication avait volé les 8 millions qui étaient destinés à la presse togolaise en guise d'aide de l'État à la presse. Il y a également d'autres slogans pour dire que il y a le président Kwaku Tanzoun qui est contre la liberté d'expression au Togo, un peu comme le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Abbas Bonfou, qui sont également contre la liberté d'expression et de presse au Togo.
Justement, Sylvio Kombé, beaucoup de journalistes sont très furieux par rapport à cette loi liberticide. Alors, maintenant, face à cette situation, comment est-ce qualifieriez-vous la liberté d'expression au Togo, Sylvio Kombé?
Oui, permettez d'abord que je termine avec ce qui s'est passé le jeudi dernier. D'abord, il y a eu une répression violente et sanglante parce qu'il y a un des nôtres, je veux parler du président, du secrétaire général du CNJOP, le Young Love à Mali, qui a été violemment, qui a reçu une balle en caoutchouc en pleine mâchoire. Actuellement, il est à l'hôpital où il doit subir un scanner pour décrypter vraiment ce qui s'est passé. Selon les médecins, il a un problème à la mandibule, il a une fracture à la mandibule et des lésions dans la bouche. Parce que les forces de sécurité, les policiers et les gendarmes qui étaient censés nous protéger au cours de la manifestation ont choisi délibérément de tirer à bout portant sur les journalistes. Ça ne se fait dans aucun pays qui se veut démocratique et qui se veut responsable. On veut réprimer une manifestation, on fait la sommation, ça n'a pas été le cas, et les grenades lacrymogènes qu'on lance, on ne les lance pas sur les journalistes, on ne les lance pas sur les citoyens. C'est déplorable. C'est un acte gravissime et nous l'avons déploré. Nous, notre réaction par rapport à cela, nous disons que c'est un acte répréhensible, c'est un acte criminel parce qu'il avait une intention, hein, avoué de porter atteinte à l'intégrité physique des journalistes. Alors, nous comptons d'ailleurs porter plainte pour cet acte barbare et déjà la semaine prochaine, nous allons encore mener d'autres actions pour faire fléchir, pour demander au chef de l'État d'user de son pouvoir constitutionnel de retirer cette loi. Parce que là, actuellement, tout ce que nous demandons, c'est le retrait pur et simple de la loi organique relative à la haute autorité de la communication.
Sylvie Combé, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amous sur Radio Canal K.
Une affaire d'incendie des marchés de Lomé et de Kara continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique. Après l'inculpation de 3 avocats du collectif Sauvons le Togo, le leader de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, Jean-Pierre Fabre, et celui du MRC, Mouvement des Républicains Centristes, Abbas Kabwa, ont été également inculpés cette semaine par le juge d'instruction. Eh bien, pour en savoir un peu plus sur ces inculpations, Abbas Kabwa est l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Nous l'accueillons dans un instant en direct depuis Lomé. Abbas Kabwa, bonsoir.
Bonsoir, Canal K.
Merci beaucoup d'être toujours l'invité de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé, depuis la Suisse. Vous êtes président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Alors, Monsieur Kabwa, vous avez été auditionné mardi dernier avec Monsieur Jean-Pierre Fabre dans le cadre des enquêtes sur les incendies des marchés au Togo qui ont ravagé également les marchés de Lomé et de Kara. Alors, hier, vous avez été écouté par le juge d'instruction, et nous l'avons appris, entretien qui a quand même duré des heures et des heures. Est-ce que vous pouvez raconter aux Togolais et d'autres Africains qui nous écoutent actuellement sur canalk.ch, Abbas Kabwa?
Je vous remercie, Amos. Vous savez que ça fait 2 mois et quelques que les marchés de Kara et Lomé ont été incendiés, pas des mains obscures que nul ne connaît pour le moment. Mais à ma grande surprise, j'ai reçu d'abord le samedi dernier, c'est-à-dire le 9, ils ont envoyé dans une amérie avec une commission rogatoire, ils m'ont cherché sur mon lieu de travail, qui n'est pas du tout mon domicile. J'ai fait observer cela au lieutenant colonel Akouli, qui commande dans une amérique, qui a envoyé les gendarmes en armes et en civil. Je l'ai fait observer que ce n'était pas normal, parce qu'ils avaient mon contact et ils pouvaient. Et c'est moi qui m'envoie une convocation le vendredi, qui a eu le jour ouvrable. Mais seulement ils ont mis sur la convocation de réception. Donc ça veut dire que même le week-end, si vous prenez, vous arrivez, vous conduisez où ils veulent. Bon, bref, la convocation a été réintroduite le lundi suivant, donc le 11, pour mardi 12 au matin. On s'est rendu là-bas à 8h pour ne ressortir que avant 23h. Alors, de quoi on nous accuse, M. Fabre et moi? Moi, principalement, ils disent que j'ai tenu une réunion à Pamé, et qui se situe à 160 km de la capitale Lomé, le 5 janvier 2013. Je précise que le 5 janvier 2013. À cette date, j'étais à l'hôpital à Paris. Je suis rentré la nuit du 12 janvier 2013. Bon, alors j'ai demandé, j'ai voulu savoir qui était l'accusateur. Et ils nous ont dit qu'il a pris la fuite. Après, il me parle d'un député ANC qui aurait dit que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. J'ai dit, il est où? On me dit qu'il est également en fuite. J'ai commencé par rire, vous savez, c'est un gros montage politique pour nous décapiter. Nous sommes devenus sénats. Hein, pour ce régime moribond
justement. Monsieur Cabois, je vais vous donner la parole encore de nouveau, parlant justement de votre convocation à la gendarmerie. Vous particulièrement, il semble que vous avez donné du fil à retordre aux gendarmes du SRI. Hein. Est-ce que vous confirmez? Qu'avez-vous dit concrètement au capitaine Akako?
Je dis au capitaine Akako, au capitaine Agenda et au capitaine Yanani, qu'ils étaient la milice politique de M. Fonadine et son parti politique. Et ils ont bondi. Ils disent, pourquoi je vais le traiter de milicien? J'ai dit, pour une raison très simple, parce que aujourd'hui, M. Fonadine a instrumentalisé tout ce qui est force de l'ordre et militaire dans ce pays. Force de l'ordre et de défense. Après le Mahou, monsieur le capitaine, vous êtes instrumentalisé. Vous êtes devenu une police politique, surtout le service SRI, qui est en train de remplir la mission de ANR, qui a eu maille à partir avec les tortures, etc. Que vous savez déjà, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, il me pose des questions, j'ai dit, mais le Togo est l'état le plus militarisé de la sous-région, je veux dire l'Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est depuis sous le père de Fonazingé. Je veux parler de Nyazingé, Feu Nyazingé à demain. Le Togo est le pays le plus militarisé de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Quand vous voyagez, toutes les compagnies aériennes installées au Togo doivent envoyer le manifeste de leurs passagers au service SRI une semaine avant. À l'aéroport de Lomé, il y a des éléments de SRI. À l'arrivée comme au départ. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on vient de près du 5 janvier 2013 où moi j'étais en France. Et dire qu'ils ne sont pas au courant de ça, là, j'ai dit, mais attendez, quand vous voulez faire des montages, au moins, faites en sorte que je fasse un peu la vérité. Bon, alors, suite à cela, on nous conduit devant le juge, le doyen des juges, qui en 5 minutes, dit qu'il m'inculpe sur la base-là, hein, il m'inculpe, et il fait rentrer maintenant Jean-Pierre Favre qui m'inculpe à son tour à ma présence. Et tenez-vous bien, il nous dit dans l'ordre que nous sommes interdits de quitter le territoire togolais. Deux, nous sommes interdits de quitter Lomé, la capitale. Et je lui ai dit, mais attendez, je vais faire observer que monsieur le juge, moi je ne suis pas de Lomé. Je suis de 450 km de Lomé. Je suis de Kara. Si j'ai un dessert ou une cérémonie majeure, il dit non, qu'on ne doit pas quitter Lomé. C'est là où je lui ai dit, mais monsieur le juge, je ne pense pas ce que vous êtes en train de dire là-bas, parce que c'est là où vous aurez des points avec moi. Moi, je suis un politicien. Pendant que vous me continuez à Lomé, le parti de Fonazingé continue pas à travailler sur le terrain. Bientôt, il faut que nous, on dans le pays pour aller demander à nos militants allez se faire recenser. Mais vous ne voyez pas que c'est un complot politique contre l'opposition togolaise dans son tout entière. Il dit non, que c'est comme ça. Voilà un peu là où on s'est arrêté.
Justement,
hier, j'étais effectivement convoqué pour 8 heures. Et je n'ai pas pu être auditionné hier, parce qu'ils ont auditionné M. Jean-Pierre Fabre de 8 heures à 17 heures. Alors, quand mon tour est arrivé, j'attendais depuis 8 heures, quand mon tour est arrivé, ils m'ont dit, bon, vu que tout le monde est fatigué, ils me prendront avec moi le lundi matin. Et je vais vous dire, c'est toujours la même rengaine, c'est la même question qui revient sous les différentes formes, et que, bon, il faut justifier, vous ne savez même pas qui vous accuse, et tout ça fait pitié. Je ne pense pas que ces gens-là vont avoir le courage qu'ils ont eu dans le dossier de Takan Nazingé, dans le fait de coup d'État. Je ne pense pas qu'ils auront le courage d'amener des gens comme nous en jugement sur la base de ce qu'ils détiennent aujourd'hui. Ça fait vraiment ridicule. Ils disent que pourquoi nous les accusons? Moi, je dis que c'est la réponse du berger à la bergère. Quand les incendies sont déclenchés, vous êtes déjà sérieux, il faut faire une enquête sérieuse avant de commencer par indexer un seul cas, c'est-à-dire le CST. Ils ont décapité au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
Abascabois.
La coordination...
On vous comprend, on vous comprend.
La coordination du CST n'existe plus.
Et vous êtes maintenant inculpé dans cette affaire d'incendie des marchés au Togo, comme vos trois amis avocats du collectif Sauvons le Togo, qui sont également interdits de sortir de Lomé. Est-ce que vous avez une réaction?
Vous savez, nous sommes convaincus aujourd'hui d'une chose. Nous sommes convaincus que le CST n'est pas donné à cette, ni de près ni de loin à cette histoire d'incendie. Et c'est le régime seul CST qu'il est en train de fabriquer. On ne nous fera pas de bébé dans le dos. Ça, c'est clair, propre, net. Nous exhortons, au contraire, le gouvernement à aller vite dans sa logique de décapitation de toute opposition togolaise, à aller vite dans un procès pour, avant qu'on ne commence pas à parler d'élection au Togo. Il faut qu'on aille vite, on va aller vite, on va aller au procès et vous verrez lors du procès ce qui va se passer.
Abbas Kaboua, vous êtes du collectif Sauvons le Togo qui a néanmoins appelé les Togolais à se faire recenser pendant que vos compagnons de lutte sont en prison et vous-même inculpés comme la plupart des responsables du collectif Sauvons le Togo. Est-ce que vous jugez que le moment est opportun au recensement et aux élections?
Il faut bien séparer les choses. Nous avons en notre possession nos cartes d'électeurs. Ils ont décidé de les annuler. Au lieu de faire la révision de liste électorale, ils ont décidé d'annuler carrément, purement et simplement, les cartes d'électeurs et refaire un nouveau recensement. La loi togolaise dit que chaque année, le gouvernement doit faire un recensement général de la population. Bon, ils ont maintenant, on vient à peine, il n'y a même pas un mois, un an, qu'on a fait le recensement général, il n'y a même pas encore un an. Mais, comme ils sont dans la logique de pouvoir tricher, de voler, de prépatrier comme d'habitude et manipuler les chiffres lors des élections, ils ont décidé de reprendre le recensement. Mais en responsable que nous sommes, nous ne pouvons pas dire à nos états de ne pas aller se faire recenser. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'appeler nos militants à aller se faire recenser. Et le moment venu, on leur dira la conduite à tenir. Pour nous, recensement ne veut pas dire élection. Attention, il faut que ça soit extrêmement clair pour tout le monde. Puisque le recensement ne va pas reprendre après.
Justement, à Abascabois, s'agissant toujours des élections législatives au Togo, certains politiques se disent déjà inquiets de la qualité de ce recensement. Est-ce qu'à votre niveau aussi, vous émettez des doutes quant à la fiabilité du dispositif de recensement?
Oui, mais vous savez, même, je vais vous donner deux ou trois exemples rapidement. Ils ont démarré hier le 15 de... Ça, c'est fantastique. Ils disent qu'ils vont faire le recensement en deux temps. Ils prennent du nord, donc d'Apaon, Saint-Cassé, jusqu'à Atapame, et d'Atapame jusqu'à la frontière du Bénin dans un deuxième temps. Donc, ça va durer 15 jours, 15 jours. Donc, ils ont démarré hier dans le nord, mais c'est le fiasco total. À Capron, les opérateurs de service sont en grève. Parce que ils ne sont pas mis d'accord sur ce qu'ils doivent gagner avec le gouvernement, comme utiliser un travail et une prestation de service, tel qu'on va les payer en retour. À Kara, tenez-vous bien, à Kara, qui est le fief, soi-disant, de l'organisme et ses amis, ils n'ont même pas initialisé, tenez-vous bien, les kits. Ils sont issus de cette région, et j'ai beaucoup de militants là-bas, mais ça fait tellement rire, ils n'ont même pas initialisé, c'est pas initialisé, les kits ne sont pas initialisés, et tenez-vous bien, ils ont le même problème de grève avec les opérateurs du service également, qui ne savent pas combien ils seront payés à la fin des 15 jours de travail qu'ils vont faire. Et vous pensez que ça, vous savez, tout ça, ça fait pitié, parce qu'il y a des appareils, quand on branche et on lance, il n'a pas pris soin d'effacer la mémoire des heures des appareils, ça vous sort des noms du Congo, RDC. Et tenez-vous bien, ces appareils viennent de la société ZDS, qui est géré par le fils de l'eurodéputé, Louis Michel, l'homme qui est venu sous l'eau, partout, au Congo, au Togo, un peu partout où il y a la dictature, lui, un parvenu, ces gens ne savent même pas ce qu'il... Mais attendez, il dit qu'il est autodidacte. Mais je veux bien, les autodidactes deviennent aussi, et par la grâce de Dieu, de grands. Mais lui, il est rentré dans la négativité, comme grand homme, il est rentré dans... Ils ont fait venir une société sous-traitante de Côte d'Ivoire, et pour réparer la quitte, essayer de nettoyer les mémoires, mais apparemment, il y a des problèmes. Il paraît que quand il n'y a pas d'électricité, les kits ont des problèmes pour tenir. Tantôt, on vous dit que ça tient pendant une heure de temps seulement. Et tantôt, c'est la pagaille totale. Et ça, c'est la main de Dieu qui a fait ça. Parce que ce qu'ils ont voulu faire de l'opposition togolaise, Dieu a refusé cela.
Merci à Abbas
Kabore. Ils sont dans la logique de préparer 2015. Mais Dieu, nous allons les empêcher. Monsieur Faure n'a dit qu'il ne sera pas candidat au Togo ici en 2015.
Abbas Kabore, pour conclure cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder en direct depuis Lomé, vous savez bien que le peuple togolais a démontré plusieurs fois sa détermination, a fait fléchir ce régime à travers des manifestations de rue. Cet après-midi, même à Lomé au Togo, vous avez participé à une des manifestations hebdomadaires du FRAC et du collectif Sauvons le Togo. Mais il semblerait que c'est plutôt la classe politique opposante qui manque de stratégie. Et le peuple togolais peut-il encore compter sur l'opposition à Abbas Kabore?
Oui, ça je vous le dis en même temps, nous ne manquons pas du tout de stratégie, sinon tout ce que je viens de vous dire, nous n'allons pas être au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que nous avons pénétré toute l'organisation de M. Fonganzine, du Sénil, je dis bien du Sénil, et j'écris son émission. Ils sont en train de vouloir mettre le feu à ce pays. Vous savez que le matériel militaire et le matériel électoral a été acheminé dans les préfectures du Nord, par les forces armées togolaises. Ils ont des camions Benz et ils vont tirer fat. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez tout cela. Et ça, c'est du travail qui a été fait de façon très minutieuse pour montrer à la communauté internationale qui par moment se tait, qui par moment réagit. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, elle a commencé par bouger quand même les lignes vis-à-vis du gouvernement togolais. Tout le monde sait désormais ce que le gouvernement togolais veut opérer comme hold-up électoral une fois de plus, où il y a des morts inutilement. Nous avons des stratégies, mais je voudrais dire à nos frères de la diaspora, vous savez, les critiques, c'est vrai, elles serviront toujours. Elles serviront surtout à ceux vers qui c'est adressé, mais mieux, il faut écouter également ceux vers qui nos frères adressent ces critiques-là. Aujourd'hui, nous sommes paralysés d'un côté. Ça veut dire, d'où nous viennent les fonds, c'est la bonne femme des marchés là, qui soutiennent l'opposition togolaise, c'est la raison pour laquelle les gens ont jugé bon de brûler les marchés, de les paralyser financièrement, et par ricochet de nous paralyser. Il faut se mobiliser et nous venir en aide. Si vous voyez les réseaux sociaux du meeting d'aujourd'hui, c'est les populations qui nous ont donné 100 francs, 100 francs. C'est ça. C'est quoi l'équivalent de... Je ne sais pas combien de centimes ou combien de francs en Suisse. Combien de centimes suisses. Vous comprenez? Ça fait pitié.
Bien sûr.
Aujourd'hui, ça fait même pas 1 million, je ne sais pas.
Merci.
Avec quoi on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 million? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein, il faut. Le moment est venu. Nous avons fait le gros du travail. Aujourd'hui, ce qui reste à faire n'est plus beaucoup. Le peuple est mobilisé derrière l'opposition togolaise tout entière. Vous avez vu ce qui se prend encore depuis une semaine, depuis quelques jours. C'est la fusion de CSC, le collectif Togo, Togo avec la coalition arc-en-ciel. Ça vous donne 11 partis politiques. Et je vous dis, dès que nous allons entrancer le dialogue, nous irons à ces élections. Quand nous allons obtenir ce que nous demandons comme réforme rapidement, nous irons à ces élections. Je vous dis que nous aurons la majorité absolue à l'Assemblée, à la prochaine Assemblée nationale togolaise. Et le pays va commencer maintenant sans renouveau. C'est-à-dire qu'on va commencer par rebâtir notre pays sur des bases que nos grands-parents ont laissées.
Merci.
Nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays-là.
Merci. Abbas Kabore.
Les prédateurs, toujours là. Voilà.
Merci. Abbas Kabore, en tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle que vous êtes président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Lomé.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Parlons à présent un peu de la Guinée, regain de tension en Guinée-Conakry après la marche du 27 février dernier et suite à la vague de violence dont elle a été émaillée avec son lot de morts et de destruction de biens matériels importants. L'opposition guinéenne et la société montent au créneau pour dénoncer ces violences faites sur de paisibles citoyens guinéens. 10 morts, dont un policier, une centaine de blessés, une bonne dizaine de boutiques et magasins pillés ou vandalisés, plusieurs millions de francs volés. C'est le bilan de la marche du 27 février dernier et des jours suivants. Mécontent, la diaspora guinéenne a organisé ce samedi et même après-midi une grande manifestation devant le Caire d'Orsay en France. Les Guinéens sont-ils mécontents de l'élection du président Alpha Condé? C'est le thème du débat que nous allons faire dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, en direct depuis la France, Paris justement, nous accueillons tout de suite Moukhtar Fall, qui est l'un des organisateurs. Moukhtar Fall, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis Paris. Vous êtes l'un des organisateurs de la manifestation des Guinéens vivant à l'étranger, notamment en France. Manifestation qui a eu lieu ce samedi après-midi devant le Caire d'Orsay. Alors pourquoi cette manifestation devant le ministère français des Affaires étrangères, Moukhtar Fall?
Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Bonsoir à tous nos auditeurs de la radio et de l'émission En Fenêtre d'Afrique. La question est importante dans le sens où pour nous manifester c'est bien, mais pour manifester, pour se faire entendre, c'est aussi trouver le lieu.
Justement, oui.
Ouais, le meilleur lieu qui que soit. Et donc en l'occurrence le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères français, c'est pas fortuit, c'est quelque chose d'énorme, surtout que la France a occupe un rang connu sur le plan diplomatique international, membre influent des Nations Unies, membre permanent on va dire, et aussi l'une des têtes de gondole de l'UE, et qui est aussi très présent en Afrique, on va dire, dû à l'histoire de la colonisation. Donc pour nous, s'il y a un endroit où il fallait manifester,
c'est le Quai d'Orsay.
Pour dire notre mécontentement, c'est bien le point de départ, c'était bien le Quai d'Orsay.
Le Quai d'Orsay. Est-ce quelle a été l'influence cet après-midi à Paris?
Écoutez, ça a été, malgré, il faut le rappeler, le froid qui sévit encore au mois de printemps, pratiquement, et il y a quand même eu beaucoup de monde. Les Guinéens ont répondu, donc quand on réunit, avec le peu de temps qu'on a eu, on a quand même réuni plus de 500 personnes qui ont répondu, et donc 500 responsables, hein, des adultes, donc c'est énorme, parce que derrière eux, c'est toutes les familles aussi qu'on peut compter. Et donc, c'est plutôt réussi parce que c'est justement ce que nous avions souhaité, donc 500 c'est ce qu'on nous a misé, et avec un peu de chance on aurait eu plus, sauf que la météo n'était
justement
pas été clémente.
Moukhtar Fall, l'opposition revendique également le vote des Guinéens de l'étranger comme vous, hein, vous êtes actuellement à Paris en France. Est-ce que vous pensez vraiment que le vote de la diaspora guinéenne aura un impact dans le processus de démocratisation en Guinée-Conakry?
C'est une question pertinente et donc nous pensons effectivement que la diaspora pèse. Quand on prend aujourd'hui, on va juste se limiter. Il faut dire, il y a dans les chiffres, dans ce qui se dit, il y a près de 5 millions de Guinéens à l'étranger. Donc c'est énorme, 5 millions de Guinéens à l'étranger. Mais je vous rassure tout de suite. Tous les 5 millions ne sont pas inscrits, hein, dans la liste électorale. Ce qui veut dire déjà que ça n'a pas été bien fait dès le départ. Il y a de l'ordre d'une centaine de milliers de Guinéens inscrits sur tout ce chiffre que je viens de vous donner. Donc ce qui représente bien une goutte d'eau. Donc l'opposition aujourd'hui n'a pas demandé, d'inscrire encore de nouvelles personnes, mais l'opposition demande juste qu'on maintienne ces quelques 100 000 sur un ordre de 5 millions, comme ça se fait la Suède, ce qui est aussi possible. Et donc cela avait été fait en 2010 lors des élections présidentielles. Donc pourquoi est-ce qu'on change les règles du jeu pendant le match? La question, elle est là. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, j'ai un début de réponse. Le début de réponse, c'est que quand on regarde les élections présidentielles passées, l'opposition a gagné 95% des voix à l'étranger. Donc, c'est énorme. Donc, quand on prend 100 000 à l'échelle du collège électoral guinéen, c'est l'équivalent de quelques circonscriptions, voilà, qui devaient revenir de droit à l'opposition, qui sont en train de partir en fumée si ces voix ne sont pas prises. Et autrement, c'est quoi? C'est la question, c'est aussi une question d'ordre juridique. Quand on dit le vote, c'est quelque chose de sacré. Ça appartient aux nationaux.
Bien
et donc,
sûr.
Les nationaux,
absolument.
On a jamais dit Guinéen de la Guinée qui vit en Guinée ou Guinéen qui vit ailleurs. Donc, on dit tout simplement Guinéen. Uh-huh, uh-huh. On se reconnaît de père et de fils guinéens et on a les liens du sang et c'est juridique. Donc, par rapport à ça, les gens veulent s'exprimer et c'est juste une revendication légitime. Et donc, mis à part ça, quand on prend aussi la diaspora, Guinéenne, c'est qu'elle apporte. En Guinée, c'est qu'elle donne comme argent. C'est l'équivalent du PIB guinéen. Donc, par rapport à tout ça, on ne peut pas à un moment donné dire que les Guinéens de l'étranger ne vont pas participer. C'est juste aberrant.
Effectivement, c'est juste aberrant de ne pas faire participer les Guinéens qui sont à l'étranger, de ne pas voter. C'est quand même aberrant. Mais je pense que l'opposition continue ses revendications. Et effectivement, l'opposition également, dans un rapport, dénonce la recrudescence des graves violations des droits de l'homme juste après la prise de pouvoir par Alpha Condé. Nul n'est actuellement pas sûr qu'en Guinée, il y aura des élections législatives qui est quand même prévues au mois de mai. Est-ce que finalement les Guinéens sont-ils déçus de l'élection du président Alpha Condé?
Je vous dis oui. Si aujourd'hui des élections devaient se faire, genre on va dire juste un référendum, si les Guinéens sont satisfaits ou insatisfaits de la politique d'Alpha Condé, je vous dis c'est un plébiscite pour le non. Les gens vont dire, pour ne pas dire à 100%, parce que c'est difficile d'avoir quand même 100% vu qu'il y a toujours des extrémistes dans notre société qui s'accordent à dire que Alpha est l'homme de la situation. Donc c'est des jusqu'au boutistes. Aujourd'hui, c'est 90% des Guinéens qui vont rejeter la politique d'Alpha Condé et d'un bloc. Ils vont dire non, c'est non, c'est non. Donc Alpha Condé a juste trahi les Guinéens. Il a juste trahi les Guinéens et c'est même un mensonge. Donc il est venu sans programme politique. Donc M. Alpha Condé, qui se fait passer pour un professeur, n'en a jamais été. Voilà, il est du professeur de droit, mais il n'en a jamais été. Il a juste été maître assistant et encore pour quelques temps. On n'a jamais vu quelqu'un qui se reconnaît comme étant l'aide d'Alpha Condé, alors qu'aujourd'hui, si des professeurs, il devait avoir un ou deux personnes clés qui témoignent. Oui, j'ai eu des cours de M. Alpha Condé. Alpha Condé n'a jamais rien donné en Guinée.
Merci.
En tant que professeur, il n'a jamais participé,
merci.
Il n'a jamais fait des choses.
Et encore aujourd'hui,
toute la politique qu'il a eu à mettre en place, c'est diviser les Guinéens, c'est exclure des communautés, c'est stigmatiser une communauté en particulier.
Merci, Moukhtar.
La communauté Peul.
Merci, Moukhtar. Merci infiniment, Moukhtar Fall, un des organisateurs de la manifestation tenue cet après-midi même en France, devant le Caire d'Orsay, et devant le ministère français des Affaires étrangères en France. Merci beaucoup. Nous allons débattre dans la deuxième partie de cette émission, et effectivement de la crise qui secoue actuellement la Guinée. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Moukhtar Fall.
Merci. Bonne soirée.
Que vai eu e no que
Eh bien, merci d'avoir suivi la toute première partie de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez quand même en notre compagnie parce que dans une minute, nous allons démarrer la deuxième partie qui sera consacrée uniquement à la crise guinéenne. Débat, est-ce que les Guinéens sont-ils déçus de l'élection de Alpha Condé? Merci et bonsoir.
Ah oui, tous les matins que nous voyons ne se ressemblent pas.